Réplique, faut-il avoir peur du wokisme, avec Romuald Ciora et Pierre Valentin. Romuald Ciora, essayiste et politologue franco-américain, qui publie un livre précisément intitulé « Faut-il avoir peur du wokisme ?», a le très grand mérite de jouer carte sur table. Il ne dit pas, comme tant de penseurs progressistes, que le wokisme est un fantasme réactionnaire, un écran de fumée, un ennemi sur mesure, fabriqué par ceux qui ont une peur bleue de l'émancipation. Au contraire, il affirme crânement que le wokisme est sans doute, après les mouvements majeurs qu'ont été l'école philosophique grecque, le christianisme des premiers siècles, la Renaissance, les Lumières, le marxisme, l'un des derniers grands mouvements d'idées qu'aura produit la civilisation occidentale. La discussion avec Pierre Valentin, qui publie « Comprendre la révolution woke », peut donc avoir lieu. Et pour savoir exactement de quoi il retourne, je voudrais que vous nous présentiez cette révolution. Quels sont ses traits distinctifs, Romuald Ciora?
Tout d'abord, essayons très brièvement de faire un petit peu de généalogie. Nous sommes, comme vous le savez, à la fin de l'ère occidentale. Notre civilisation décline. Toutes les valeurs qui ont fait notre civilisation, celles que nous partageons tous autour de cette table, les valeurs émancipatrices qui sont issues de la Renaissance, du siècle des Lumières, du siècle du développement de la démocratie, c'est-à-dire le 19e siècle, aujourd'hui commence à ne représenter plus personne, surtout pour les jeunes générations. On a la chance d'avoir justement un jeune auteur de 25 ans qui, lui, n'est pas touché par ce fléau. Aujourd'hui, on le voit aux États-Unis, 60% des jeunes, selon un dernier sondage, disent que oui, la démocratie, oui, c'est pas mal, mais peut-être qu'un régime semi-autoritaire avec un homme, pardonnez-moi, mais c'est l'expression qui a été utilisée, qui en aurait, bah, ça pourrait aider le pays peut-être à se relever. Je crois que 40% des Français, quelque chose comme ça, là, je ne confirmerai pas, mais ne mettent pas la démocratie au premier rang des priorités de notre République, etc., etc. Donc aujourd'hui, une parenthèse se ferme, et comme dans toute fin de civilisation, toute fin de parenthèse, il y a toujours une forme de crispation. C'est pourquoi on voit des débats, parfois sans queue ni tête, manquant d'intelligence, en ce qu'on pourrait appeler des anti-woke extrêmes, ou des woke surexcités, et Dieu sait qu'il y en a. Donc aujourd'hui, nous avons un mouvement sociétal qui n'est pas nouveau, qui, comme vous l'avez précisé en me citant, est l'héritier, évidemment, je ne mets pas du tout le wokisme sur le même plan que le christianisme. J'entends que le wokisme, de par son projet émancipateur, est l'héritier des valeurs originelles du christianisme, qui est, que l'on le veuille ou non, l'un des premiers, si ce n'est le premier et le plus grand mouvement émancipateur, je parle du christianisme originel, qu'a connu selon moi la civilisation occidentale. Le wokisme est également l'héritier du siècle de la Renaissance, du siècle des Lumières, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, et n'est pas selon moi toujours en contradiction avec les valeurs universalistes des philosophes des Lumières, bien au contraire, mais on y reviendra si vous le souhaitez. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui à ce moment de l'histoire où donc ce mouvement sociétal qui comprend plusieurs théories, la théorie critique de la race, la théorie du genre, différents mouvements qui peuvent sembler un petit peu une grande pâte à caisse où tout est là dans un fourre-tout, et je vous l'accorde bien volontiers. Néanmoins, toutes ces grandes théories ont culminé à un moment précis de l'histoire, c'est-à-dire au cours des dernières années, et cela en raison de dynamiques sociétales. Donc nous assistons aujourd'hui, pour conclure, sur le développement d'un mouvement sociétal, selon moi, sans précédent depuis le siècle des Lumières.
Oui, mais alors attendez, je vais passer la parole à Pierre Valentin, mais vous dites que les valeurs démocratiques nées en Occident sont aujourd'hui très largement mise en cause, à l'intérieur même de la civilisation occidentale. Pensez-vous que le wokisme, c'est-à-dire les études de genre, la théorie critique de la race notamment, le wokisme, lui, perpétue, radicalise ces valeurs démocratiques? C'est-à-dire, quelle place lui donnez-vous dans ce contexte de remise en cause générale de la démocratie?
Selon moi, comme je le disais, le wokisme est sans aucun doute le dernier grand mouvement d'idées qu'aura connu notre civilisation. Et donc, de ce fait, il ne fait que poursuivre le travail qui a été élaboré au XVIIIe siècle, etc. Et donc, confirmer cette volonté d'émancipation qui est bien évidemment très présente dans l'idée de démocratie. Donc, je ne vois aucune ambiguïté quant au wokisme comme un mouvement dans la continuité des Lumières et des grandes idées démocratiques.
D'accord. Donc c'est une réponse à la crispation antidémocratique à laquelle on insiste aujourd'hui.
Tout à fait, malheureusement dû à de très nombreux extrémistes et à une médiatisation des GAFA, etc., qui part un petit peu dans tous les sens, on a tendance à n'entendre que, comme toujours lors des révolutions, les pires d'entre nous, c'est-à-dire des personnes qui sont parfois intolérantes, qui sont... Enfin bref, vous le savez.
D'accord.
Donc voilà, on a parfois une idée caricaturale du wokisme.
Du wokisme, bon, très bien. Pierre Valentin. Quel est, selon vous, le sens de la révolution woke? Woke, je le rappelle, veut dire éveillé, rester éveillé, stay woke. C'était le slogan de Black Lives Matter. Ce slogan s'est étendu pour justement nommer aujourd'hui le mouvement qui nous intéresse. Pierre Valentin.
Alors, je commencerai par une définition et ensuite je parlerai de la notion de révolution, telle que je la comprends. Le wokisme est une idéologie qui perçoit les sociétés occidentales comme étant fondamentalement régies par des structures de pouvoir, des hiérarchies de domination, des systèmes d'oppression qui ont pour but d'inférioriser l'autre avec un grand A, c'est-à-dire la figure de la minorité sous toutes ses formes, religieuses, ethniques, sexuelles, etc., par des moyens souvent invisibles. Et le woke... L'éveillé, donc, c'est celui qui se donne pour but dans la vie d'aller éveiller, d'aller conscientiser les autres face à cette réalité néfaste cachée. Et la façon de s'y prendre, c'est par une grande négation sur la notion de révolution. Moi, je me fie là-dessus à Orwell et plus précisément à La ferme des animaux, qui n'est pas simplement une satire particulière de 1917 et de la révolution russe, mais également une réflexion sur la notion de révolution plus largement. La définition qu'Orwell semble nous proposer dans cet ouvrage, c'est celle d'une révolution géométrique. C'est-à-dire que la révolution politique se réduit à une révolution géométrique, au sens où on effectue 360 degrés et on revient au point de départ. Le début de cette révolution dans La ferme des animaux, c'est des cochons, qui signifie ici l'avant-garde éclairée, qui souhaitent abolir l'homme. Et on a même un théoricien de la révolution qui dit « exterminer l'homme et tout ira mieux ». Donc un objectif présenté négativement. Et la fin, la dernière scène mythique de La ferme des animaux, c'est des animaux qui regardent à travers une vitre et qui voient des hommes et des cochons trinquer ensemble, leurs yeux aller de l'un à l'autre et de nouveau de l'autre à l'un, et déjà ils n'arrivaient pas à savoir qui était qui. Et il me semble que cette métaphore est particulièrement utile ici parce qu'on a un mouvement, le wokisme, qui se définit par la négative. Lorsqu'on demande à ses militants de se définir en un mot, ce sera anti-raciste ou anti-sexiste, donc en contre. Lorsqu'on demande quel est le terme le plus utilisé dans le monde académique, on voit le terme « déconstruction » surgir, qui est une façon chic de dire « destruction ». Lorsque on demande à ces militants de définir leur projet en quelques mots, ce sera « lutter contre les discriminations, les dominations, etc. ». Lorsque l'on demande de dépeindre une utopie, c'est toujours une photographie négative, ce sera un monde sans domination, sans racisme, etc. Et Orwell nous apprend que lorsqu'on fonctionne comme ça, tel un navire qui verrait des récifs et qui mettrait un grand coup de barre dans une direction sans fixer de cap positif, on finit fatalement par revenir au point de départ. Et là-dessus, je donnerai un exemple pour étayer un peu cette démonstration très abstraite, c'est que le wokisme par féminisme, ou en l'occurrence plus précisément par anti-sexisme, a fini par abolir la catégorie de la femme. C'est-à-dire qu'on est venu à un féminisme sans femme, c'est Judith Butler qui le théorise déjà dans Troubles dans le genre, le mot femme serait déjà une définition, donc excluant, or nous on n'est pas excluant, on est inclusif, soyons souples dans ce que veut dire femme, in fine elle dilue le mot qui ne veut plus rien dire, et donc des hommes peuvent devenir femmes, et ça a mené à plusieurs conséquences. Ça a mené à, et vous en parlez dans votre ouvrage Romuald Seurat, la destruction, en tout cas une menace sur le sport féminin, parce que si un homme peut se déclarer du jour au lendemain femme, d'un seul coup, les avantages physiologiques sont indiscutables et pourtant discutés. Ça mène aussi au fait de ne pas utiliser femme en tant que mot pour ne pas offenser la nouvelle catégorie du transgenre. Donc je donne un certain nombre de délicieux synonymes dans l'essai de l'ordre de personne qui menstrue, personne qui accouche, etc. C'est-à-dire que insulter les femmes par féminisme est devenu chic au sein de ce mouvement. Les porcs en ont rêvé, le wokisme l'a fait, les hommes et les cochons trinquent ensemble. Et c'est ça qui me semble important de comprendre dans cette notion de révolution woke.
Alors, Romuald Seurat, vous citez J.K. Rowling, celle qui a écrit Harry Potter, et qui a maintenant beaucoup d'ennuis, notamment pour un message ainsi libellé. Les personnes qui ont leurs règles, je suis sûr qu'on avait un mot pour désigner ces personnes avant. Que quelqu'un m'aide. Femme, avec un A, femme, fime. Voilà comment elle ironise. Et vous trouvez, vous, que c'est très lourd. Pourtant, c'était jusqu'à wokisme le sens commun. Or, le wokisme a décidé de bousculer le sens commun. C'est quand même une initiative extrêmement radicale. On est d'abord antisexiste, on défend les femmes contre différentes formes d'oppression, et au bout du compte, on se retourne contre l'idée même de la femme au nom de la fluidité de genre. Qu'en pensez-vous, Romuald Seurat ?
Alors, je me permets juste de revenir sur ce que disait Pierre Valentin. Il a raison sur plusieurs points, bien évidemment, mais je pense qu'il faut voir les choses, je le répète, d'un peu plus loin, d'un peu plus haut, et je ne dis pas que votre ouvrage n'a pas une vision globale et précise, hein, non, loin de moi cette idée, mais il faut tenter de voir cela non pas sur le court, ni le moyen terme, mais sur le long terme. Et dans certains de vos exemples, vous nous parlez en fait des extrémistes woke, vous parlez de positions extrêmes. Je vais revenir donc sur le sport par exemple, et répondre à ce que M. Finkelrod m'a demandé, sa question concernant J.K. Rowling. Mais je pense qu'il faut essayer d'analyser les choses calmement comme nous le faisons ce matin, en essayant de comprendre qu'il y a plusieurs nuances de woke, si je me puis me permettre ce trait d'humour. Comme il y a plusieurs gauches, comme il y a plusieurs droites, et je pense qu'il y a des woke plus modérés, qui peuvent partager certaines de vos idées, d'autres qui sont, comme dans tout mouvement, beaucoup plus extrêmes. Donc pour revenir sur J.K. Rowling, et je reviendrai ensuite sur le sport. Alors, une fois de plus, attention. Si quelqu'un me dit, écoutez Romuald, moi, la théorie du genre, pour moi, c'est des bêtises, je n'y crois pas, ne me parlez pas de cela. Si quelqu'un me tient ce propos, je trouverais tout à fait normal que cette personne me dise, bah non, il n'y a pas d'hommes qui ont leurs règles, c'est impossible, ça fait sens. Mais concernant J.K. Rowling, et une fois de plus, cela vient d'un manque d'analyse, de réflexion, non pas d'intelligence, parce qu'on parle d'une femme intelligente, mais ça manque de recul. J.K. Rowling reconnaît la théorie du genre. Elle a épousé la théorie du genre. La théorie du genre, comme vous le savez, c'est très simple, c'est-à-dire, à part quelques extrémistes qui vous disent qu'on ne naît pas avec un sexe masculin ou féminin, bref, comme nous le savons, il y a des hommes, pour être tout à fait prosaïque, des personnes, pardon, qui naissent avec un pénis, d'autres avec un vagin. Ça, c'est indiscutable. Seuls des fous vous diront le contraire. Le genre est ce que l'on attribue à la naissance à ces personnes en fonction de leur sexe biologique. Le genre est donc, selon le wokisme, une construction sociale, sociétale et culturelle. Pour faire simple, tu es un petit garçon, tu t'habilleras en bleu, tu joueras avec des camions. Tu es une petite fille, tu t'habilleras en rose et tu joueras avec des poupées. Pendant très longtemps, très très longtemps, les femmes, tu es une femme, tu seras cantonnée à la maison, tu ne voteras pas. Ma belle-mère, encore en 1969 en Suisse, avait dû demander à son mari une autorisation écrite pour aller voter. Ce sont des assignations de genre. Donc voilà, en tout cas pour moi, il est très clair qu'il y a des personnes qui naissent avec un sexe biologique masculin et féminin. Le genre, par contre, est une construction sociale. Alors, on peut réfuter cette théorie. Si on l'accepte, ce qui est le cas de notre ami J.K. Rowling, il faut essayer d'être logique et constant dans ce que l'on dit. C'est-à-dire que donc, si on accepte que le genre est une construction sociale, etc., on peut donc admettre qu'une personne qui est née avec un sexe biologique, en l'occurrence masculin, décide, parce qu'il ne se ressent pas à l'aise dans le genre féminin, de se ressentir et de s'incarner, si je puis dire, dans le genre féminin, et donc de se considérer être une femme. Et comme aujourd'hui, cela est permis dans de nombreux pays au niveau légal, etc., de se présenter comme une femme. Je suis une personne, certes, née avec un sexe biologique masculin, mais je me reconnais dans le genre féminin. Donc, je suis une femme. Toujours, pour les personnes qui reconnaissent cette théorie, hein, j'entends, comme J.K. Rowling, à partir de là, si l'on admet tout cela, et donc qu'un homme a le droit de se reconnaître comme femme, donc en l'occurrence, c'est plutôt l'inverse, une femme née avec un sexe biologique féminin qui veut se reconnaître dans le genre masculin, on doit logiquement pouvoir admettre qu'un homme puisse avoir ses règles. Une fois encore, je parle des personnes qui acceptent la théorie du genre. Pour moi, c'est logique.
Pierre Valentin.
Moi, je voulais revenir sur la distinction entre woke, extrémiste et modéré. Ce qui se présente là comme étant une distinction spatiale ou qualitative, en réalité, est une distinction temporelle. C'est-à-dire qu'on est face à une dynamique. Ce qui fait que l'extrémisme, à un moment donné, devient la norme le jour d'après et l'arrière-garde le jour d'encore après. L'inclusion, si vous voulez, ce n'est pas l'inclusivité. Ce n'est pas un tampon qu'on reçoit par la poste un jour avec un badge où désormais, ça y est, nous sommes inclusifs. C'est une dynamique sans cesse renouvelée où l'inclusif d'hier est le rétrograde d'aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, on a pu voir ça, par exemple, avec le déboulonnage de statues, qui est un sujet qui est abordé également dans votre ouvrage, où les premières statues déboulonnées étaient celles d'esclavagistes. Donc ça, je ne sais pas si c'était des modérés ou des extrémistes qui ont fait ça. Ensuite, le déboulonnage d'après, et là, tout ça est chronologique et qualitativement radicalisant, disons. Ensuite, on est passé à Churchill. Donc là, on pourrait s'imaginer qu'on fait une colonne de plus et de moins, avec, dans le côté des plus, avoir terrassé le Troisième Reich, et dans le côté des moins, ce que les militants lui reprochaient, des commentaires dits problématiques sur les Indiens. Sauf que dans une dynamique de pureté, on ne réfléchit pas par un savant calcul utilitaire de plus et de moins, mais plutôt la moindre goutte de mauvais champagne dans la bouteille ruine tout le millésime. Là, on est dans la pureté et pas dans le calcul. Poussons le curseur de pureté un peu plus loin. Et là encore, je ne sais pas si c'est des extrémistes ou des modérés qui ont fait tomber cette statue. On s'est attaqué à Victor Schœlcher, vous en parlez brièvement dans votre ouvrage. Donc là, on a un anti-esclavagiste déboulonné. Mais il n'y a pas de raison que la révolution s'arrête en si bon chemin. On a mené plus récemment, c'était je crois à New York, au déboulonnage de la statue de Gandhi, pour des commentaires je crois sur les femmes. Où là, on aurait pu croire, encore une fois, si on fonctionnait par un calcul Excel avec des plus et des moins, on a quelqu'un qui a résisté pacifiquement en tant que non-blanc au colonialisme anglais, et même lui ne trouve pas grâce aux yeux de ses militants. Donc de ce point de vue-là, il me semble que d'avant-garde à rétrograde, d'extrémiste à modéré, il n'y a qu'un pas, ou plutôt, plus précisément, le fait de ne pas marcher assez vite. Et c'est cette distinction-là que je trouvais intéressante.
Alors, je reviendrai tout à l'heure sur la question du genre. J'aimerais qu'on s'attarde sur un concept crucial du wokisme, la déconstruction. Mais il me semble aussi que le wokisme, disons, est un nouveau mouvement d'idées radical qui délaisse l'anticapitalisme, héritage marxisme, pour l'antiracisme et l'antisexisme. Et là, effectivement, la distinction modérée, extrémiste est difficile à faire, parce que si vous êtes antiraciste, vous dénoncez, évidemment, le racisme. Et, disons, le racisme ne mérite pas une seconde, la considération. On ne discute pas avec celui qu'on dit raciste. On l'annule. Vous êtes contre la cancel culture, mais, disons, l'antiracisme radical mène à l'annulation. Et d'ailleurs, vous dites vous-même, vous n'aimez pas toutes les formes de déboulonnage, mais donc, par exemple, vous dites Voltaire. Voltaire, c'est évidemment l'affaire Calas, mais il a bénéficié financièrement de l'ignoble traite des Noirs, donc il faut lui conserver sa place dans nos espaces publics, mais il faut apposer sur les monuments qui lui sont dédiés une plaque où il serait mentionné l'apport essentiel de son œuvre et de sa pensée, ainsi que le crime auquel il n'a pu s'empêcher de s'associer, et vous trouvez normal que Ramayad considère que le fait de passer devant la statue de Colbert est une micro-agression. Il est très difficile, dans ce contexte d'un antiracisme aussi fort, aussi généralisé, de garder une position modérée. Ronald Seurat.
Justement, c'est ce qu'il faut essayer de faire, et essayer d'analyser calmement. En quelques mots, je reviens sur ce que disait Pierre Valentin. Je pense que vous avez tort sur un point lorsque vous dites « nous allons de radicalisation en radicalisation ». Prenons le grand mouvement sociétal qui a été au fondement de notre République, la Révolution française. Regardez, oui, au départ, vous avez raison, elle s'est radicalisée. Est-ce qu'on coupe encore les têtes ? Non, je crois qu'aujourd'hui nous sommes dans une république apaisée. La révolution sexuelle, que d'excès navrant, aujourd'hui nous tirons les bénéfices de cette révolution sexuelle, cette émancipation essentiellement pour les femmes, mais les excès sont en partie derrière nous. Donc je ne crois pas que nous allons de radicalisation en radicalisation dans tout mouvement révolutionnaire ou sociétal. Nous sommes au moment de la radicalisation. Et oui, bien évidemment, vous avez raison, on va encore voir quelques radicalisations, etc. Mais si on voit ça sur le moyen et long terme, je pense que celles-ci s'estomperont. Maintenant, pour en revenir, par exemple, au statut. Alors, je permettrai juste de commencer par Hamayad. C'est amusant, mais je suis athée personnellement, mais de par mon père, ma mère, je suis catholique, de par mon père, je suis juif. Nous avons eu malheureusement une partie de notre famille qui a été exterminée par les nazis. Je sais que c'est la même chose pour vous, monsieur. Je ne pense pas que ni vous ni moi ne nous semblerions pas légèrement agressés si nous devions chaque matin passer devant la statue, un peu caricaturale évidemment, mais de Pétain ou de quelqu'un, pas comme Pétain, mais de quelqu'un qui aurait collaboré avec les nazis. Donc quand Ramayad, je la connais pas, hein, mais quand Ramayad dit une micro-agression, ce qui m'a agacé, si vous voulez, c'est un petit peu justement cette agression des anti-wok. Elle parle de micro-agression. Elle ne dit pas, comme certains wok excités, « Ah, je ne peux pas, je tombe dans les pommes. » Non, micro-agression. Je pense que je serais noir. Je pourrais me dire, tiens, bah, Colbert, c'était quand même un type formidable. C'est une autre époque. Ce qui n'est pas le cas avec Voltaire, c'est une autre époque, c'était comme avant. Voilà, donc je pense qu'on peut quand même parler de micro-agression. Si moi je devais passer devant les statues de certains collaborationnistes qui ont pour certains encore des rues à leur nom, je pense que je pourrais me sentir micro-agressé.
Maintenant, enfin, pour ce qui Colbert, est Colbert, des... c'est pas tout à fait la non, même chose quand même. Le rôle de Colbert dans l'histoire française, mais... vous savez aussi que le Code Noir était une manière aussi de réguler une situation qui donnait lieu à un certain nombre d'excès terribles. Enfin, mettre sur le même plan non,
ce que je dis, je
Colbert,
volontairement.
Je ne sais pas, Léon de Grelle et tout ça, c'est un peu
mais,
difficile.
Mais bien évidemment, mais néanmoins, je peux comprendre un minimum la micro-agression. Si vous le permettez, je voudrais juste revenir sur Voltaire. Je pense que vous avez tout à fait raison quand vous dites qu'il ne faut absolument pas juger hier avec les yeux d'aujourd'hui. Seuls des idiots s'obstinent à faire cela en permanence. Parfois, on peut néanmoins se poser des questions. Prenons le cas donc de l'esclavage aux États-Unis. Je pense que George Washington était un homme extraordinaire qui a véhiculé une pensée, non pas une pensée intellectuelle évidemment, mais un message, une pensée. Il incarne cette lumière du XVIIIe siècle comme personne peut-être ne l'a pu le faire de par son action politique avant lui. Néanmoins, cet homme qui est pourtant émancipé dans tous ses esclaves, comme Thomas Jefferson, etc., étaient des planteurs qui eux-mêmes avaient des esclaves qui auraient sans doute été mon cas si j'étais né à l'époque dans le sud des États-Unis. Quand on me dit oui, ne les jugeons pas avec les yeux d'aujourd'hui, c'est normal qu'il n'ait pas remis en cause l'esclavage. Je peux comprendre quand on parle d'une personne au XVIIe siècle, début XVIIIe siècle, mais n'oublions pas qu'à l'époque de Washington ou de Thomas Jefferson, de nombreux pères fondateurs, dont Hamilton lui-même, avaient depuis une quinzaine d'années commencé à militer contre l'esclavage. Donc il y avait déjà une conscience du crime contre l'humanité que représentait l'esclavage. Et donc c'est pour ça que parfois, oui, avec mesure, on peut tenter de regarder hier avec les yeux d'aujourd'hui.
Pierre Valentin.
Alors je voudrais répondre à deux points. Premièrement, la question de est-ce que cette révolution peut s'institutionnaliser ? Et donc se tempérer dans sa concrétisation, si on peut dire, passer les excès révolutionnaires. Et la seconde question, qui est le terme de micro-agression. Alors, pour la première, je ne me prononcerai pas sur les révolutions antérieures que vous avez citées, parce que je ne prétends pas les maîtriser. Par contre, pour ce qui est du wokisme, il me semble que ce qui est important, c'est que la finalité de ces révolutions est négative. C'est-à-dire que c'est ce qu'on pourrait appeler le paradoxe du parasite. Sa victoire et sa défaite sont une seule et même chose. Lorsque vous avez un parasite qui, par exemple, prend possession d'un corps, Pour croître, il doit dévorer l'hôte, mais lorsqu'il l'a tué, lui-même est mort d'une certaine façon. Il lui faut trouver quelque chose d'autre. Et je pense que c'est une bonne métaphore à garder en tête. Cette révolution-là ne pourra pas s'institutionnaliser parce que elle ne peut pas construire. Donc, il ne peut pas y avoir un bâtiment qui est construit grâce à cela parce que c'est une façon de détruire, de déconstruire, comme ils disent. Et ça, ça me paraît assez important. C'est déjà un paradoxe que Le Goff souligne sur la question de 68 en parlant d'héritage impossible. Qu'est-ce que vous faites lorsque le discours du pouvoir vous demande d'être contre le pouvoir? Qu'est-ce que vous faites lorsque ceux qui sont en haut vous demandent d'inverser le haut et le bas en permanence? Qu'est-ce que vous faites lorsque vous êtes révolutionnaire et que vous êtes confortablement assis sur le trône? Qu'est-ce que vous faites lorsque les discours hégémoniques deviennent eux-mêmes hégémoniques? Ou plutôt les discours sur les discours hégémoniques deviennent eux-mêmes hégémoniques, le gramscisme concrétisé? Ou là-dessus, il me semble qu'il y a des paradoxes insolubles dans la concrétisation de la dissidence, dans l'institutionnalisation de la rébellion, qui ne peuvent pas perdurer. Sur le sujet des micro-agressions, je trouve ça intéressant dans la mesure où, premièrement, le terme, les définitions données par les différents militants, sont intégralement subjectifs. Une micro-agression, c'est ce que toute personne, soit lors d'un dialogue entre deux personnes, soit une tierce personne qui a accès au dialogue, perçoit comme étant une micro-agression. C'est-à-dire que n'importe qui peut décréter une micro-agression, particulièrement si vous appartenez à la classe des dominés, où là, par définition, là je ne caricature pas, le dominé pourra vous dire « j'ai ressenti une micro-agression à un tel moment » et il aura raison par définition. Et un dernier point là-dessus, Douglas Murray, l'essayiste britannique, disait quelque chose de très juste. Une société qui parle à ce point de micro-agression n'est permise que par le fait qu'il n'y ait pas d'agression réelle. C'est une sorte de paradoxe de l'égalité de Tocqueville qui se radicalise, où typiquement, on peut imaginer qu'une fois que, ce qui n'arrivera pas parce que le terme est subjectif, on aura aboli toutes les micro-agressions, il faudra passer sans relâche aux nano-agressions, au niveau d'après, pour essayer de lutter contre ces nano-agressions insupportables. Ça ne peut pas se terminer de ce point de vue-là.
Oui, alors, cependant, vous dites ça ne peut pas s'institutionnaliser, Pierre Valentin. Mais quand même, l'institution universitaire a déjà été modifiée en profondeur par le wokisme, avec les studies. Women studies, gender studies, queer studies, lesbian studies, gay studies, whiteness studies, subaltern studies, postcolonial studies, disability studies, fat studies, j'en passe. Et c'est des études qui sont non pas des recherches, mais la mise en forme de griefs contre un ennemi unique, en fait, le mâle occidental blanc, parce qu'avec l'intersectionnalité, on a une pluralité de minorités, mais en fait, le chiffre 2 règne en maître. Il y a justement d'un côté les minorités dominées et de l'autre côté le dominant qui a toujours le même visage. Donc l'institutionnalisation a déjà eu lieu. Et d'ailleurs, on se demande si un jour on va pouvoir revenir en arrière avec tous ces studies, tous ces professeurs, tous ces livres. Voilà, donc,
c'était, pose cette question. C'est une très bonne question. En tout cas, sur ça, il y a un paradoxe très intéressant. Je le résume dans une formule pour m'amuser, qui est de dire, on a le sentiment que si la FIFA, l'ONU, la Banque Centrale, Greta Thunberg, Europe Écologie Les Verts, et qui sais-je encore, parvenait enfin à se mettre d'accord sur le titre d'une tribune, celle-ci s'intitulerait « Lutter contre le système ». Il semble que la précondition d'une prise de pouvoir, c'est de se présenter comme un contre-pouvoir. Et il me semble que la même façon, la façon de se devenir dominant, c'est de se prétendre dominer. Typiquement, lorsqu'on est un candidat centriste en France qui vise à gagner la présidentielle en visant une sociologie de retraité, il faut intituler son livre de campagne « Révolution ». De la même façon, je cite la chanteuse Angèle, qui dans sa chanson « Balance ton quoi », déjà une référence à « Balance ton porc », après avoir enchaîné des lieux communs du féminisme contemporain, dit dans son refrain, je sais que je passerai pas à la radio. Alors que cette chanson a justement massivement été diffusée à la radio, en dominant les classements français et belges pendant des mois et des mois et des mois. Et je trouve que cette fascination pour la subversion, une fois concrétisée, mène à toutes sortes de paradoxes fascinants.
Et dont Philippe Murray parle très bien.
Rebellocrate.
Mmh. Voilà, avec ce concept de rébellocrate. Romuald Sciorra.
Pour répondre à ce que vous disiez quant à la non-institutionnalisation du wokisme, juste en deux phrases, pour vous prouver que, gentiment, que vous avez tort sur ce sujet. Le mariage gay, je ne pense que dans cette pièce, personne aujourd'hui ne s'opposerait au mariage gay. Voilà un progrès positif dû à la mouvance woke, au contraire que d'autres que vous avez brièvement cités. Voilà une institutionnalisation du wokisme à travers, je pense, quelque chose de positif, d'harmonieux, qui permet d'unir deux personnes du même sexe qui s'aiment. Donc, il y a des succès d'institutionnalisation du wokisme et je pense que le mariage gay ne sera pas le seul.
Alors, une autre question portera sur le rapport au passé du mouvement woke. J'ai fait la liste de toutes ces studies, Romuald Sciorra. Elles témoignent d'une sensibilité très, très forte à l'exclusion, à toutes les formes de stigmatisation, qui serait quand même la caractéristique de notre temps. Et donc, on a tendance à voir dans le passé les imperfections, les angles morts. C'est-à-dire, qui a résisté simultanément au sexisme, à l'homophobie, au racisme, etc. Personne avant nous. D'où une manière de convoquer les heures pour montrer ce qu'elles ont de prémonitoire et surtout exhiber leurs faiblesses. Vous dites que c'est un grand mouvement d'émancipation. Mais justement, l'émancipation au sens de la Renaissance et des Lumières, c'était quand même l'idée qu'on ne pensait pas par soi-même de soi-même. On pensait, on comprenait, par le détour des signes d'humanité déposés dans les œuvres de culture, disait Ricoeur. Et Eugenio Garine, la culture européenne et l'acheminement vers notre œuvre personnelle à travers le trésor des œuvres d'autrui. Autrui, en l'occurrence, quand même, le passé, les grands morts. On a l'impression que notre présent n'a plus besoin du passé. Donc il y a, me semble-t-il, en tout cas, avec le wokisme, un très fort ethnocentrisme du présent. Nous savons à quoi nous en tenir et nous sommes une sorte de tribunal devant lequel nous convoquons un passé forcément imparfait. N'est-ce pas quand même un des grands problèmes du wokisme, Romuald Sciorra?
C'est pourquoi je propose à nos amis wok d'essayer, au lieu de juger avec parfois tant de violence le passé, d'essayer de voir ce qui, dans notre présent, pourrait les faire rougir dans 20 ou 30 ans. Voilà un sujet d'un livre qui serait intéressant. Donc oui, vous avez en partie raison, bien évidemment. Là, on parle d'un des points faibles du wokisme. Néanmoins, toutes ces studies que l'on peut trouver dans les universités anglo-saxonnes ou françaises ou autres aujourd'hui permettent néanmoins, lorsqu'elles sont une fois encore menées avec intelligence, mais malheureusement l'intelligence est si rare, que ce soit parmi les anti-woke ou les woke, parmi nous tous, quand c'est mené avec intelligence, calme, pondération et un esprit d'ouverture et de dialogue, je pense qu'elles permettent d'éclairer certaines erreurs du passé. Quand c'est possible, l'exemple que je donnais tout à l'heure par rapport à Washington et Jefferson, si on allait juger un Romain qui avait des esclaves avec nos yeux d'aujourd'hui, mais c'est absurde, ça serait aberrant. Par contre, comme je le disais, on peut penser que Washington aurait pu, comme ses collègues, Hamilton et autres, avoir une préscience de la problématique de l'esclavage. Donc, quand c'est fait avec modération et intelligence, oui, ces studies nous permettent de repenser le passé afin de mieux éclairer le présent. Mais une fois encore, pour conclure, de la modération.
Pierre Valentin.
La différence entre les studies et les études, outre la traduction, c'est que dans une studies, par exemple dans les gender studies, les études de genre, il faut arriver en acceptant un certain nombre de prémices idéologiques avant de pouvoir commencer à étudier. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas arriver dans les gender studies, j'ai déjà essayé, j'ai eu des problèmes, en admettant la différence innée entre l'homme et la femme. Ça, c'est une partie qui ne peut pas être acceptée. Une fois qu'on adoube cette prémisse idéologique et morale, on peut commencer à discuter dans un petit vase clos. Donc ça, c'est à mon sens une distinction importante sur laquelle insiste d'ailleurs Roger Scruton en parlant de fake subjects sur ce point. Ensuite, le rapport au passé me paraît très important parce que c'est un point sur lequel ce mouvement qu'on qualifie de progressiste a quand même des points de divergence importants avec ceux d'avant. Alan Bloom, encore en 87 dans L'âme des armées, où il critique beaucoup le relativisme de ses étudiants, donc de ce point de vue-là, il y a encore une forme de filiation, mais s'étonne en disant ils ont un rapport, un optimisme indécrottable vis-à-vis de l'avenir qui, lui, le désole. Aujourd'hui, ça a changé. C'est-à-dire que le déclinisme et la collapsologie est passé de la droite à la gauche et la droite. Elle a glissé vers la gauche. Et ça, c'est intéressant, me semble-t-il. Par contre, ce qui n'a pas changé, et d'ailleurs, vous-même, dans votre ouvrage, vous défendez une sorte de progressisme décliniste dans notre civilisation déclinante, etc. Ça, je trouvais ça intéressant, c'est assez nouveau. C'est-à-dire que c'est progressiste aujourd'hui de dire tout est foutu, ce qui est intéressant. Par contre, ce qui n'a pas changé, c'est le rapport au passé. C'est-à-dire que, globalement, un des dogmes du progressisme aujourd'hui, c'est de dire tous nos ancêtres étaient soit des salauds, soit des crétins, voire les deux. Et là-dessus, on a encore ce que l'intellectuel anglican C.S. Lewis appelait le snobisme chronologique. Ce rapport au passé où, par définition, tout ce qui est du passé est dépassé. Et ce n'est pas un trésor dans lequel on trouverait des pépites encore pertinentes aujourd'hui. C'est quelque chose dont il faudrait s'émanciper pleinement et complètement. Et ça, ça a été gardé. C'est-à-dire qu'on a une jeune génération qui a hérité du refus de l'héritage sur ce plan-là.
Ah oui, enfin, en même temps, il n'y avait pas un refus total de l'héritage dans le marxisme. Le marxisme, c'était quand même place faite, le communisme même, aux grandes œuvres, aux grands classiques. Donc là, il y a quand même une modification. Je voudrais maintenant parler d'un concept très important pour le wokisme, la déconstruction. Un concept emprunté à Derrida, mais dans son usage actuel, on dit que tout ce qui est historique, il n'y a pas de nature, et tout ce qui est historique est révocable. Michel Foucault, qui n'utilisait pas le terme de déconstruction, parlait de l'immense et proliférante critiquabilité des choses, des institutions, des pratiques, des discours. Donc, l'héritage est cela dont nous devons nous affranchir, et même plus que l'héritage, le donner. C'est là que la question trans revient. Le trans n'est plus une exception. Une exception qu'il faut savoir accueillir. C'est un exemple. C'est un exemple justement de l'émancipation ultime. Le sujet trans se déprend de son appartenance sexuée. Le trans réalise le rêve de l'autro-engendrement. Rien d'extérieur ou d'antérieur à la volonté ne doit exister. Tout ce qui était inaccessible devient disponible. C'est la formule du progressisme, c'est le sens qu'il revêt à l'époque que Heidegger appelle l'âge technique. La liberté n'est plus hypothéquée par la naissance. Et c'est peut-être cela aussi qui peut poser un problème. Il est tout à fait normal de vouloir, disons, aider ceux qui ne se sentent pas bien dans leur peau. Mais de là en faire les héros de l'émancipation, il y a peut-être un pas qu'on devrait hésiter à franchir. Qu'en pensez-vous, Romuald Seurat ?
Alors, pour ce qui est de la déconstruction, je ne pense pas que l'on puisse dire que le wokisme est le seul mouvement à avoir conduit ce genre de choses. La déconstruction est inhérente à l'histoire humaine et à l'humanité. Qu'était-ce Spinoza, si ce n'est l'un des premiers grands déconstructeurs de l'époque moderne, entre guillemets ? Et quel a été le plus grand moment de déconstruction de notre histoire sur lequel nous vivons et que nous approuvons une fois de plus tous ici ? Ça a été l'abolition de la monarchie absolue. Je sais très bien que vous en rendez compte. C'est rhétorique. Mais rendez-vous compte du choc mental qu'a été à l'époque l'abolition de la royauté pour une république, quand on sait ce que signifie république, republica. Là, on parle d'un mouvement, d'un moment plutôt de déconstruction sans précédent, sans doute dans l'histoire occidentale. La création de la République américaine, ça n'a pas été le même choc. Donc, la déconstruction n'appartient pas que au wokisme. Aujourd'hui, où en est-on, par exemple, avec le phénomène transgenre ? Est-ce que nous sommes dans un mouvement de transgression ultime, de déconstruction ultime ? Je ne pense pas. Nous avons déconstruit en partie, bien que l'on ait autorisé et légalisé le mariage gay, nous avons également déconstruit l'institution du mariage. Nous avons déconstruit une certaine forme de la famille, mais qui a permis d'émanciper justement la famille. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les transgenres, comme je le dis dans mon livre, ne sont pas les héros de notre temps, au sens où ils n'ont pas une action héroïque qui viserait à sauver quelqu'un. Mais cette transgression, entre guillemets, ultime, du genre pour s'émanciper, pour être ce que l'on est selon ce ressenti, et oui, une forme d'émancipation, et parfois, mais attention, je le répète, les transgenres ne sont pas les héros de notre temps, mais il faut une certaine forme d'héroïsme, en tout cas, si ce n'est d'héroïsme, de courage, dans certains milieux, pour affirmer et assumer sa transidentité.
Jean-Valentin.
Je répondrai d'abord sur la déconstruction et ensuite sur la question du trans. La déconstruction, ce que je trouve intéressant, c'est que quelqu'un d'aussi rigoureux et dévoreur de livres que Pierre-André Taguieff prétend avoir lu l'intégralité de Derrida et n'avoir jamais su trouver une définition intéressante ou pertinente ou rigoureuse de la déconstruction dans toute cette œuvre.
Non mais la déconstruction, c'est au sens où ce terme est employé aujourd'hui.
Oui, je suis bien d'accord. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et à ce moment-là, je pense que ça a plus d'intérêt de remonter un niveau au-dessus, d'aller voir chez Heidegger, ou chez lui, Abba, où voulait dire destruction, où là au moins c'est plus clair. C'est encore une fois un principe négatif de dissolution, un principe critique à minima. On parle des théories critiques, par exemple, qui ont pour fonction de critiquer le monde plutôt que de le décrire, qui sont très présentes au sein du wokisme, comme la théorie critique de la race, par exemple. Sur le cas trans, une première contradiction que je trouve intéressante, il y a le mouvement transgenre d'un côté et une autre branche du wokisme qui est les études de corpulence, les fat studies. Dans le cas du transgenrisme, les militants disent aux jeunes personnes « changez votre corps, mutilez-le, faites-vous des chirurgies, prenez des médicaments toute votre vie, et de l'autre côté, là, vous pourrez vous aimer ». C'est non pas « je vous aime tel que vous êtes », on peut vous aimer tel que vous serez. D'ailleurs, les détransitionneurs sont vilipendés avec une virulence extraordinaire. Tandis que dans les fat studies, les personnes qui font 140 kilos, qui ont de vrais risques sur leur santé, comme vous le reconnaissez très justement dans votre ouvrage « Romuald Seurin », eux, on leur dit « aimez-vous comme vous êtes ». Quel est le point commun entre ces deux positions contradictoires, aimez-vous comme vous êtes, aimez-vous comme vous serez demain après des chirurgies, des changements radicaux, un changement de prénom, etc. C'est une injonction à la destruction de la personne telle qu'elle est, à une décrépitude progressive au niveau de la santé, et c'est le seul point commun entre les deux. Et peut-être une courte incise pour terminer sur la figure symbolique qui est devenue le personnage de Bilal Hassani, que je trouve très intéressant. Bilal Hassani, pour ceux qui ne savent pas, c'est un chanteur qui a été mis en avant lors de l'Eurovision, ce qui symboliquement n'est pas rien, il représentait la France, et également mis en avant par le magazine Tétu dans sa une grimée en Jésus. Pourquoi ce personnage est mis en avant? Lorsque le commun des mortels le voit, on ne sait pas s'il est blanc ou métisse, il joue sur cette ambiguïté volontairement, on ne sait pas s'il est homme ou femme, on ne sait pas s'il est homosexuel ou hétérosexuel, ce qui va avec le critère d'avant. On ne sait pas vraiment quel âge il a, et il joue sur cette indifférenciation qui est mise en avant par le mouvement queer comme un but, un idéal. Et là où c'est très paradoxal, c'est que Girard, dans le bouc émissaire, nous rappelle que jadis on persécutait ceux qui a incarné l'indifférenciation, tandis que là, ça s'est renversé, où on s'unit pour l'indifférenciation comme facteur d'union, ce qui est très paradoxal.
Oui, alors, quand je disais le trans comme héros, c'est-à-dire que derrière le trans, et les trans sont rares, ceux qui changent d'identité sexuelle, on assiste aujourd'hui, ou on croit assister à l'abolition de l'ordre binaire. La finitude est vaincue, la fluidité peut prévaloir, chacun se choisit, non-binaire, etc., d'où LGBT, QIA+, etc., ça ne s'arrête pas. Abolition de la fatalité, résiliation de la dette originaire, élimination du donné, encore une fois comme émancipation suprême. Mais je voudrais aborder un autre point. L'un des paradoxes du wokisme, c'est précisément la force de la critique de l'Occident chargé de tous les maux, l'impérialisme, le racisme, le sexisme même. Donc c'est un anti-occidentalisme qui prévaut dans les universités occidentales. Et dans cet anti-occidentalisme se loge aujourd'hui la critique d'Israël. Israël, dernière entreprise coloniale. Le colonialisme est mort partout. Israël, depuis des origines à nos jours, entreprise coloniale. Et là, je voudrais vous soumettre ceci, une scène qui s'est passée au Congrès américain le mardi 5 décembre 2023. Les trois présidentes des universités de Pennsylvanie, de Harvard et du MIT sont interrogées par une représentante républicaine, Elise Stefanik, sur la fureur décolonialiste qui fait rage dans les campus. Et la question est, appelé au génocide des Juifs, constitue-t-il une forme de harcèlement qui viole les règles de conduite de votre université, oui ou non? Et elles répondent toutes, cela dépend du contexte, et deux d'entre elles, notamment la présidente de Harvard, Claudine Gay, ont été amenées à démissionner. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que cette violence antisioniste sur les campus, un rapport, selon vous, avec le wokisme, que vous inspire cette affaire Claudine Gay?
que m'inspire d'abord cette déclaration qui a été faite au Congrès, mais du dégoût. Comment peut-on proférer ce genre de choses? Ça, c'est le premier point. C'est indiscutable. Arrêtons, je voudrais pas être vulgaire, arrêtons de dire des bêtises. Le Hamas a commis un acte terroriste, odieux, à l'encontre d'Israël. Ensuite, il y a un débat que je propose de ne pas entamer à cette table. Est-ce que la réaction d'Israël, une réaction nécessaire, est-elle disproportionnée ou non? C'est un autre débat, laissons-le de côté. Mais pour en revenir à ce que vous disiez, je pense que tout wok qui resterait un minimum de cervelle, ce qui est, j'espère, mon cas, ne pourrait que condamner ce genre de choses. Je reviens sur la civilisation occidentale. Alors, la civilisation occidentale, selon moi, je pense que c'est l'une des plus belles civilisations qu'ait connue l'humanité. Après tout, ce que l'on pourrait rétorquer au wok, c'est la civilisation qui a permis le wokisme. C'est la civilisation qui nous permet aujourd'hui de dire presque ce que nous voulons, en tout cas dans mon pays d'adoption, les États-Unis, absolument ce que je veux. La civilisation occidentale, c'est aussi une culture, enfin c'est pas à vous que je vais l'apprendre, enfin on va pas s'étaler là-dessus, on parle d'une des plus grandes, des plus belles civilisations de l'humanité. Mais, comme toute civilisation, celle-ci a des faces sombres et le wokisme nous permet aujourd'hui de réfléchir à ces faces sombres, à ces échecs, à ces turpitudes, d'une manière qui, selon moi, devrait nous permettre à mieux construire notre présent et notre futur. Mais une fois encore, il faut que cela soit fait avec modération et avec intelligence.
Pierre-Valentin.
D'abord sur l'antisémitisme et ensuite sur la civilisation occidentale. Ce qui me semble intéressant, c'est ce terme de colon qui est mobilisé par les militants à la fois pour décrire des juifs en Israël et des Français chez eux. D'ailleurs, la décolonisation, ou plutôt le colonialisme change de sens parce que ça n'est plus imposer sa culture chez les autres, mais désormais imposer sa culture chez soi, qui est traité de colonialisme. Pourquoi le terme de colon est important? Dans leur logique dissidente, qui à mon sens est héritée de Herbert Marcuse de l'école de Francfort, on a une logique de la balle rebondissante. C'est-à-dire qu'on accuse le dominant et son système d'un mot, et une fois qu'on l'a fait en tant que dissident, on a le devoir, et même le droit et même le devoir, d'user de ces mêmes mots pour répliquer. Donc une fois que, par exemple, le système est décrit comme antidémocratique, on a le devoir d'être antidémocratique pour lutter contre le système et mener à une vraie démocratie. Une fois que le système a été traité de violent, on a le droit et même le devoir d'être violent pour lutter contre le système. Donc cette notion de colon fait que on plaque la figure de Goliath sur son adversaire, ce qui fait qu'en tant que David, on a le droit de le lapider. C'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite, là où l'antisémitisme paraît inéluctable, c'est que dans leur notion d'équité, un des trois termes les plus importants dans leur logique, c'est une égalité du point d'arrivée. Et dès qu'on a une surreprésentation statistique d'un groupe dans un domaine, par définition, cela signifie que dans ce domaine, il y a eu une discrimination. Or, aux États-Unis, les Juifs, dans certains domaines, sont surreprésentés. Et donc, c'est non pas preuve de leur génie ou de leur travail ou de leur effort, mais preuve que le système les favorise. Et donc là, l'antisémitisme revient mécaniquement. Et juste sur la civilisation, un dernier point là-dessus. L'éloge de la civilisation occidentale, vous serez vivement reproché par les militants woke. Je pense en effet que l'Occident est puni pour ses
vertus. Par les plus idiots d'entre eux. Croyez-moi, de nombreux woke reconnaissent les grandes valeurs de notre civilisation et bénéficient de ses avantages chaque jour.
Permettez-moi d'être en désaccord avec ça. Et en tout cas, c'est la phrase de Leszek Kolakowski, très intéressante là-dessus, le penseur polonais, que l'Occident, déjà, est la civilisation qui a inventé l'anthropologie, soit le fait d'essayer de se débarrasser de son centrisme, comme on dit, de son eurocentrisme. Et c'est précisément la civilisation qui est la plus accusée d'être eurocentrée, par exemple. C'est le paradoxe de l'égalité de Tocqueville qu'on pourrait formuler de trois façons différentes. Seules les sociétés qui ont dû mettre le genou à terre face à Black Lives Matter ont été traitées de racistes. Seules les nations dont les grandes multinationales ont repeint leur couleur au logo LGBT ont été accusées d'homophobie, et seules les communautés qui savent ce que signifie le terme trans sont accusées de transphobie. Et je trouve que le paradoxe là est bien résumé.
Oui. Je vais répondre brièvement à Pierre-Valentin. Quant à la civilisation, voyons les choses telles qu'elles sont. On est un petit peu tous dans la position de Saint-Augustin et des derniers Romains dans ce moment de basculement civilisationnel. On ne sait pas trop ce qui nous attend, on peut essayer de le deviner, etc. etc. Notre civilisation est une civilisation, je l'ai dit, merveilleuse, etc. Mais n'oublions quand même jamais que c'est celle qui a produit, pour prendre deux cas, la démocratie, la liberté, mais qui a aussi conduit un pays, il n'y a pas si longtemps que cela, à commettre la Shoah.
Oui, c'est vrai, mais enfin, bon, la Shoah, c'était aussi une Allemagne qui s'est attaquée à tous les principes fondateurs de la civilisation occidentale, notamment le principe de l'égale dignité des personnes, puisqu'il s'agissait de remplacer cela par la hiérarchie des races. Donc l'Occident était en quelque sorte dans le viseur du nazisme. Vous le reconnaissez.
Je me permettrai de ne pas être tout à fait d'accord là-dessus, mais bien évidemment, le nazisme est l'antithèse des valeurs que nous partageons et des valeurs occidentales que nous chérissons, bien évidemment. Mais cette déconstruction du nazisme, c'est quand même basé sur des grands philosophes, évidemment, détournant leur pensée, nous pourrions mentionner Nietzsche, etc., sur des penseurs et des valeurs occidentales. Mais ne chipotons pas là-dessus, on est entièrement, je pense,
non,
d'accord.
Non, ça serait le sujet d'une autre émission. Et malheureusement, nous devons nous arrêter. Alors, je rappelle le titre de vos livres, Pierre Valentin, « Comprendre la révolution woke ». Le livre est publié chez Gallimard, dans la collection Le Débat. Romuald Sciorra, « Faut-il avoir peur du wokisme ?»« Comprendre la philosophie woke ». Et le livre est publié chez Armand Collin. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Corinne Amard et Lise Ripoche, à la réalisation Alexandra Malka, à la technique aujourd'hui Thomas Robin. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre Victor Hugo, Histoire d'une âme. Mon invité sera Fabrice Lucchini. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.